Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Spino et Grégoire Di Fiore. Et la prise de son est assurée ce soir par Bruno Gagnère et la réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Mathilde Serrel, Hugo Cassavetti, Mathieu Conquet. À notre programme.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, bah Hugo, il lance une mode, alors allez-y, hein, dites bonsoir. Hein.
Bonsoir.
Ces gens de radio, il faut, dès qu'ils voient un micro, il faut qu'ils parlent dedans. Si vous brisez tous les rituels, où est-ce qu'on va arriver où à 20h? Mathilde Serrel, répondez.
On va arriver à la découverte de ce merveilleux troisième volume de Hip Hop Family Dead Priestcore, par exemple.
Bon, on n'aura jamais assez de génériques pour faire tout mon chapeau, donc on va parler d'Utopia de Björk, d'Animal Spirits de James Holden et Animal Spirit, et en effet, de Hip Hop Family Tree, volume 3. Boris Spino est là, lui, beaucoup plus sage. Bonsoir Boris, on peut dire bonsoir du coup.
Bonsoir.
Ah, pas mal. Vous le faites bien aussi. Vous regardez Twitter, vous regardez Facebook pour donner à entendre les commentaires de nos auditrices et auditeurs. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film d'animation La jeune fille sans main de Sébastien Goldenbach qui avait eu le prix France Culture Cinéma des étudiants en 2017. Un DVD distribué par Shellac. Cette émission avec le 9e album studio de Björk, près d'un quart de siècle, 24 ans pour être précis, après le bien nommé Début. Notre camarade Olivier Lam a écrit son amour de ce disque dans les colonnes de Libération. Hugo Cassavetti aussi dans Télérama, on va en parler ensemble après l'écoute d'un des morceaux de l'album Utopia. Il s'appelle Blessing Me.
All of my mouth was kissing now into the air. I'm missing this is access texting a blessing.
Could wait for
Björk. Le morceau s'appelle Blessing Me, l'album Utopia, et c'est Hugo Cassavetti qui ouvre le bal.
Ah, le bal, oui, pour danser, c'est pas évident, mais. Et encore, c'est le morceau le plus dansant. Non, mais je. Alors d'abord, on peut commencer par la pochette qui est quand même. Qui fait peur, quoi. C'est. Teletubbies croisé avec Chucky, la poupée du diable.
Un peu, n'achetez pas mon disque quand même, cette pochette.
Ouais, et en même temps, c'est tout Björk, et c'est probablement ce qui est admirable dans le projet. C'est à la fois effectivement vraiment rebutant, cette pochette, et c'est tout ce qu'il y a de qu'on peut trouver exaspérant chez Björk, et en même temps, qui derrière la rend aussi. Voilà, on va pas revenir il y a 15 jours, quoi, mais c'est peut-être aussi juste pour revenir une petite parenthèse, Charlotte Gainsbourg, quand on est en plein dans Björk en même temps, c'est totalement les opposés.
Vous lâchez pas l'affaire.
Mais non, Hugo. Parce que je vois bien qu'il y a le contexte qu'on beaucoup. Il y a des démarches d'artistes.
Et là, il sert Björk.
Qu'on suit pas, qui demande un effort, et des démarches de voilà, d'easy listening avec un peu d'émotion parsemée dessus. Voilà.
C'était pour Charlotte Gainsbourg. Voilà.
Mais non, mais je pense, parce que c'est pas une intense, qu'on était en plein dedans.
Deuxième semaine.
Et ça joue, ouais, quand on est confronté à deux œuvres en même temps. Et Björk, alors on va juste pour résumer, c'est quand même quelqu'un, comme beaucoup de gens, j'avais un peu décroché, surtout à l'époque de Biophilia, quoi, où il y a un moment.
Vous n'êtes pas très biophile, vous-même.
Biophile ?
Vous n'êtes pas très biophile.
Pas très, quoi, mais déjà, l'esthétique, le truc où on a l'impression que les applis, la technique, la technologie, et je pense que c'est pas du tout contre Björk, ce qui est fascinant chez Björk, c'est quand même, s'il y a bien, c'est une des rares personnes, on pourrait citer Pete Gervais, et peut-être on reviendra plus tard à les deux personnes, à mon avis, dans la lignée de laquelle elle s'inscrit le plus, c'est Kate Bush d'un côté et Joni Mitchell, et elle le revendiquera assez vite. C'est justement, au nom de l'amour, je pense qu'elle est tombée, qu'elle a été pas mal manipulée par Matthew Barney, quoi, et que je pense qu'il y a eu des choses remarquables depuis l'année 2000, mais je pense que Matthew Barney s'est beaucoup servi de Björk. C'est pas contre elle, je pense qu'elle était sincèrement pris là-dedans et qu'à deux, ils ont fait ce tandem qui a produit des choses assez magnifiques, mais aussi des choses où c'est parti un peu n'importe où. Et il est arrivé ce qu'on souhaite à personne et en même temps, ça lui a fait peut-être un peu du bien. C'est voilà, c'est que ce couple s'est arrêté. Ça l'a totalement démoli. Tout à coup, elle avait fait donc il y a 4 ans cet album Vunicura, qui était quand même, je trouve, son album le plus audible, pas facile non plus, où tout à coup elle se livrait, c'est-à-dire qu'elle se mettait à plus faire que des björkismes, des. Où elle
comme
parlait, et surtout elle faisait des. Oui, c'est ma spécialité, ça, ouais.
Je vois ça.
C'est mon côté Didier
Guettin. La soupe aux choux et Björk.
Et tout à coup, pour la première fois, on entendait un disque de Björk où, depuis les tout débuts, on comprenait ce qu'elle racontait et c'était juste, elle faisait un peu son journal intime. Ce qu'elle dit elle-même, c'est que le problème, c'est qu'on pense de Björk qu'elle est extrêmement prétentieuse et ça peut donner cette impression. Alors que je pense qu'elle est elle est assez premier degré, paradoxalement. C'est qu'elle raconte un peu tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense avec cet instinct qui fait aussi cette culture islandaise qui fait qu'elle a peur de rien. Parce qu'il y a ce décalage qui la rend toujours assez étrange et fascinante, mais qu'elle vient d'une culture quand même assez différente. Elle le dit elle-même, elle le revendique, elle est ancrée à moitié là-bas. Et en même temps, c'est ce frottement permanent qu'elle a avec ce monde dit, voilà, que ce soit new-yorkais, anglais, tout ce monde-là, le monde de l'art et tout, et son approche quand même très, très organique, un peu instinctive, près de la nature, qui se frotte tout le temps. On trouve la même chose chez quelqu'un. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui convergent autour d'elle, de Anthony à John Grant et des gens comme ça, qui sont totalement attirés par ce, ou même on pense à. Non, mais là, c'est vrai que je peux être long et tout.
Non, c'est pas votre genre, Hugo.
Jazz Coleman de Killing Joke, il y a 20 ans, est allé en Islande. Et c'est vrai que ça provoque des choses intéressantes.
Il est resté,
parce
là.
Qu'il y a quand même quelque chose de particulier. Oui, il y est resté. et juste pour dire, ce disque, voilà, si, je pense que si je n'avais pas eu la chance d'aller la voir, de faire l'effort, de me plonger dedans, parce que voilà, on va parler d'œuvres ce soir qui. Totalement, contrairement à certaines œuvres dites purement pop qui s'écoutent comme ça à tous les niveaux, à tous les degrés, n'ont de sens que si vraiment on s'immerge dedans,
plonge.
On les écoute à fond. D'où le lien déjà avec, en tout cas, Kate Bush parfois, qui peut en rebuter certains, mais Kate Bush, c'est la version anglaise. On va dire, mais elle revendique de classe moyenne plutôt élevée et qui est dans le confort et qui à un moment a juste fait des disques sur sa vie chez elle avec des bruits d'oiseaux, de la nature. C'est la même démarche dans le fond. Et elle, avec ce disque, elle a reconstruit. Alors ça peut paraître gnangnan de dire c'est juste un disque où elle redécouvre, qu'elle lutte contre elle-même pour non, c'est pas parce qu'on s'est écroulé, qu'on a eu le cœur brisé, qu'on est absolument à terre, qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est Helter Skelter des Beatles. Quand on touche le fond, on n'a plus qu'à remonter, quoi.
C'est beau. Mathieu Conquet sur Björk et ce nouvel opus.
Vous avez commencé par la pochette, je voudrais juste la décrire pour nos auditeurs qui peut-être ne la voient pas.
De musique.
C'est un portrait, c'est une sorte de dieu, enfin on imagine le portrait d'un dieu exotique qui serait une sorte de dieu aquatique, animal et sexuel. C'est des cheveux en fourrure d'ours avec un nez qui est surmonté de quelque chose qui ressemble assez fortement à un appareil génital, avec un fœtus d'oiseau sur le cou. Voilà, tout ça fait très peur. Mais quand on regarde bien l'image...
C'est signé Jesse Kanda, qui est un artiste plasticien basé à Londres.
Ou une poupée japonaise arty et moche, pour le simplifier.
Voilà, mais quand on regarde bien... Mais voilà, si on regarde bien,
ils sont trop jeunes, ils peuvent pas comprendre.
Ce dieu souriant, il a un regard plutôt bienveillant, et il tend une flûte. On a l'impression qu'il tend une flûte vers nous. Et les flûtes et les harpes, elles sont très importantes dans ce disque. L'Utopia, ça s'appelle Utopia, donc Utopia, il y a, comme chez Thomas More, l'idée d'une île, d'un pays idéal à atteindre. Et cet idéal, il est atteint, je trouve, vraiment pleinement par le son. Je pense que ceux qui ont quitté Björk pendant longtemps ou qui peuvent craindre des effets de comme vous disiez...
Un peu moins bien, mais bien quand même.
Les retrouveront encore, mais il y a une maîtrise, il y a une virtuosité dans la patte sonore, je trouve, qui est vraiment... bluffant, je crois que Olivier Lam parlait d'un éther musical dans Libération. Et vraiment, l'éther, c'est une bonne image pour parler de plein de flûtes, de harpes qui vont être mêlées avec tellement de virtuosité qu'on a l'impression qu'elles sont faites par le même luthier que la voix et que toutes les voix qui sont entremêlées. Donc il y a vraiment une qualité sonore qui est bluffante. Il y a aussi des effets de field recording, c'est-à-dire de l'enregistrement de sons de la nature. Mmh. Et il ne nous a pas échappé qu'était crédité un Français, d'ailleurs un ornithologue français. Dans ce disque, c'est Jean-Claude Rocher, qui a 86 ans. Je vous recommande, vous pouvez écouter sur le site de France Culture une nuit magnétique avec cet homme qui a capté pendant des années tous les sons, des milliers
c'est bien,
de, sons,
en même
voilà,
temps.
De sons d'oiseaux. Non, mais c'est vraiment extraordinaire.
Oui.
Et la façon dont Björk intègre ces sons d'oiseaux à sa musique, à sa propre voix, et surtout à ce qu'elle a à dire, parce qu'elle parle très crûment de sexualité, de douleur, d'acceptation de soi. L'album n'est pas un voyage forcément facile, mais c'est un très beau voyage.
Alors, on attend que Mathilde Serrel fasse son imitation de Björk.
Et oui, c'est
à présent, puisque les autres l'ont fait.
Non,
c'est alors là, c'est vraiment
my daughter, Mathilde.
Moi, j'aime bien quand elle dit tabula rasa. Par exemple,
ouais.
C'est un tabula rasa qui n'est pas du tout vindicatif, en fait. Le tabula rasa de Björk, c'est un des titres d'Utopia. Moi, ce que j'aime avec ce disque, c'est que c'est la proposition d'un futur. Elle le dit à un moment qu'il faut entrer dans la science-fiction. Elle dit « Enjoy the science fiction, the altar is growing ». L'autre est en train de grandir. Et je trouve qu'elle est en train, effectivement, de créer un territoire sonore qui serait une base, comme ça, effectivement, technologique et analogique de ce qu'on a au XXIe siècle, où on pourrait hybrider ces choses. Là, ensemble, il y a un peu comme une mousse verte qui naît à la surface de ce disque. Et pour moi, c'est un grand territoire comme ça du 21e, du 22e siècle qui s'ouvre avec quelque chose qui en finit justement avec Helter Skelter ou avec une proposition radicale punk. D'ailleurs, elle le dit future, forever et pas nos futurs. Donc, c'est vraiment un album dans la projection. On a parlé beaucoup d'influence. Il y a aussi dans cet article, décidément, d'Olivier Lam qu'on a tous lu dans Libération. Le...
Faut pas lire tout ce qu'elle écrit, non plus.
Prélude à l'après-midi. Midi d'un faune de Claude Debussy. C'est aussi ça la structure matrice de cet album de Björk. On n'a pas parlé du producteur qui est aussi
très important.
L'artisan sonore d'FK Twigs qui a le même collaborateur de pochette, Jesse Kanda, mais qui l'a un petit peu mieux réussi quand même, c'est vrai.
Ouais.
Pour FK Twigs, il faut le souligner. Alors lui, justement, c'est vraiment le tisseur de matière par excellence qui va passer de l'analogique au numérique et qui va intégrer les sons de la nature. Et puis pour ce qui est effectivement de la Björk qui s'était un peu égarée, on parlait de Matthew Barnett, donc le plasticien avec qui a été pendant de nombreuses années, 10 années passées ensemble. C'est vrai que là, on la retrouve, je trouve, presque dans l'homogénique. Un album qui a exactement 20 ans. Moi, j'ai l'impression d'entendre cette Björk-là qui revient un petit peu à elle-même.
Moi, j'aimerais bien entendre ce que vous avez entendu. Hein. Moi, je crois que je n'ai pas fait le deuil de la trilogie de départ, début, post et homogénique. Il me semble qu'à cette époque-là, Björk était vraiment au sommet de la musique, pour moi, dans un univers qui n'appartenait qu'à elle, parce qu'elle l'avait construit, souvent très bien accompagné. C'était Marc Bell à l'époque, maintenant c'est Arca. Alors, j'entends bien que cet album-là, il sonne plus... on va dire solaire, plus léger aussi. Il y a une forme de légèreté dans cette recherche de l'utopie. Mais bon, moi, je m'étais beaucoup lassé de toutes ces vocalises que je n'imiterai pas au fil des années.
C'est dommage.
Mais le format chanson me manque, moi, terriblement. Je suis beaucoup trop vieux jeu pour.
Mais c'est vraiment un récit, je pense.
Ouais, mais si l'avenir de la musique, le 22e siècle, c'est ça, je vais peut-être m'arrêter au 21e parce que. Je veux bien l'entendre un petit peu. Il y a des morceaux, Los par exemple, qui me laissent apercevoir que Björk sait toujours faire quand même quelque chose qui ressemble à des chansons. Mais il y a quelque chose, j'ai quand même toujours l'impression qu'elle se fait plaisir d'abord à elle, et pas forcément en pensant à ses auditeurs. Alors vous êtes la preuve du contraire, et notre camarade Olivier Lamossi.
C'est vrai qu'il y a presque 10 minutes pour un titre comme Utopia. Là, on part vraiment dans un format...
Ouais, et moi, je ressens pas une nécessité de ce format-là. Je ne ressens pas tout ce que vous décrivez. J'aimerais bien vivre ça, Hugo.
Il y a une petite longueur. C'est vrai que l'album est très riche. Et que moi, c'est justement au moment de Los, même à la deuxième écoute, je trouvais qu'il y a vraiment une longueur, une forme de répétition, quelque chose qui s'installe et ne surprend plus, alors que les 3-4 premiers morceaux sont extrêmement prometteurs et divers, et je trouve vraiment intéressant. Mais ça reprend vraiment avec Body Memory, qui est un titre hallucinant, qui dure près de 10 minutes, où vraiment il y a quelque chose... Ou dans les airs qu'elle roule assez délicieusement, dans ce qu'elle dit, dans ce mélange de flûte et de chant, et il y a vraiment, je trouve, quelque chose de très réussi.
Hugo Cassavetti.
Pour revenir, déjà, je suis à la fois d'accord, c'est tout à l'opposé, c'est justement parce que ça fait plaisir, et je pense que les plus grandes œuvres comme ça, d'auteurs, c'est parce que justement ils ne pensent qu'à eux,
à ce
qu'ils ont à dire. Qui fait que j'apprécie, c'est que si elle faisait juste une démarche, ce qu'elle a pu faire par moment, ou tiens, on va prendre tel remixeur et des trucs comme ça, peut-être que ça me plairait moins. D'abord, après, il y a le propos, et c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est pas un disque. Alors, oui, il y a autre chose, je voulais dire, c'est que on a rarement été aussi loin de ce qu'on pourrait définir comme du rock et encore plus de la pop. Et pourtant, elle insiste, et je pense qu'elle est sincère, qu'elle est une artiste pop.
Oui.
Que justement, elle n'est pas... Non, je parle de ça parce que je pense qu'on aura ce débat tout à l'heure avec James Holden, quoi. Et là, vous parlez de ce qui manque, c'est le format pop. Effectivement, il manque. Et en même temps, moi, j'admire deux choses. C'est qu'elle essaye, et je pense que Kate Bush a fait ça à sa manière, et peut-être Joni Mitchell, mais à d'autres époques, qui est de réinventer, de ne pas se contenter de retrouver les choses un peu faciles. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, elle se lance dans un truc, un récit. C'est vrai que c'est avant tout un journal de bord. Il y a même, et je trouve qu'il y a vraiment trois mouvements de ce mouvement où elle déclare où elle en est. Ça démarre à part sa rencontre avec Arca, qu'il lui envoie des MP3. Elle raconte tout littéralement.
Oui, oui.
Et c'est pour ça que ça demande une attention. Il faut tout écouter. Et dans ce cas-là, ça s'écoute presque comme un livre lu, d'où le manque parfois de mélodie. On a l'impression que ça repart, que c'est tout le temps le même, ça repart, parce qu'elle est là, elle est complètement prise dans son truc, dans cette écriture, où elle balance tout comme ça. Après, la deuxième phase, je trouve Body Memory qui raconte énormément de choses, qui est à la fois le truc positif. Mais c'est vrai qu'il y a un sous-texte, sauf qu'il se comprend très bien si on l'écoute. Mais ça demande vraiment un effort de rentrer dedans. Et quand on l'écoute, ce qui est assez rare, alors quand il y a les belles chansons, les mélodies aussi, on est ému par ce qu'elle raconte, par sa sincérité, par le processus qu'elle raconte. Et là, moi, ça me parle beaucoup, quoi. Et le Body Memory, ça marche dans les deux sens. Cette chanson qui est centrale, la plus longue, c'est à la fois sur justement, quand il ne faut surtout plus penser à un moment quand on sort comme ça d'un truc dévasté parce que votre corps sait mieux que vous. Et d'un autre côté, il y a quelque chose qu'on a peut-être tous vécu. Quelle est la pire chose? C'est le Body Memory. C'est ce truc qui vous rattrape quand vous avez rompu avec quelqu'un et qui vous a fait du mal. Et pourtant, le corps de l'autre reste et tout. Et ces choses-là. Et après, elle finit et c'est assez drôle et lucide, où elle parle plus de toute la transmission, de où elle va, et avec ce côté drôle, j'espère que je te laisse pas trop de merde. En gros, elle parle à sa fille, quoi, qu'on s'est débarrassé de tout ça. Et je trouve que cet arc, elle le réussit très bien avec Arca. Quoi.
Alors, juste avant d'entendre Mathilde Serrel, pour Espino, quelques commentaires quand même, Twitter, Facebook.
Oui, deux extrêmes pour démarrer. Aurélien écrit sur un album fabuleux, Elliot, lui, sur un disque ennuyeux. Alexandre salue le parcours musical de Björk, de plus en plus dense, intense et fou. Sa voix, les textures tendues, prêtes à craquer, mais tenue malgré tout, inimitable maîtrise du chaos. On ne sait pas où on va, c'est un fil ténu, mais c'est tout sauf n'importe où, et c'est beau. Une splendeur, écrit Caroline Psirouki, s'écoute en boucle, un bain à base de concepts philosophiques, de caresses mystiques et de cristaux de paix, et quelques cris de chaton aussi. Album Chair de poule, un réconfort dans lequel on aime se lover, signe Elsa C. Et une dernière réaction de Patrick Thévenin, on a l'impression que Björk, avec Arca, a trouvé son nouveau Marc Bell, qui avait collaboré à plusieurs albums de Björk, dont homogénique.
Mot de la fin sur Björk pour Mathilde Serrel.
Bah justement, c'est la cohérence de cet ensemble. On parlait d'œuvres tout à l'heure et c'est vrai que la séquence, en effet, entre ce titre qui est Body Memory, qui fait donc environ 10 minutes, suivi du Future Creatures, où elle va dire qu'elle est à 5 minutes de l'amour, puis Tabula Rasa, un petit peu plus loin, où on est sur la projection dans le futur. Pour moi, il faut l'écouter un petit peu comme on regarderait un film de Miyazaki. D'ailleurs, l'artiste qui fait la pochette, pour revenir à lui, il est japonais d'origine. Je trouve qu'il y a quelque chose de Nausicaa et la Vallée du Vent. Si vous avez vu cette grande épopée de Miyazaki, qui est une épopée écologique, et ben c'est un peu cette princesse-là, Björk. Et je pense que c'est presque un disque à laisser flotter comme ça pour faire venir les images et à concevoir vraiment presque comme un ensemble cinématographique.
Bon, ben voilà des modes d'emploi délivrés à nos auditrices et auditeurs. Je vais l'appliquer à moi-même. Hein. Je vais recommencer, réessayer. Non pas que je ne trouve pas des qualités à cet album, mais pas autant que vous. Utopia de Björk chez One Little Indian Records. À suivre dans la dispute, James Holden et Hip Hop Family Tree.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée le mardi soir à la musique, en allant s'intéresser au nouveau projet du DJ et compositeur anglais James Holden, qui a réuni autour de lui de nouveaux musiciens pour un album qui, comme celui de Björk, s'affranchit de pas mal de contraintes habituelles. Il nous offre une virée assez cosmique, elle aussi. L'album s'intitule The Animal Spirits. On va écouter le morceau Each Moment Like the First.
We'll be right back.
James Holden and the Animal Spirits. Bon, je sens qu'on va repartir sur de vieilles discussions, que savait-il pour savoir en quelle année ce disque est sorti. Mais on va commencer par le jeune Mathieu Conquet, enfin jeune depuis le temps qu'il est jeune.
Finalement, avec le temps.
C'est fini ce temps-là.
Mais on a presque le même âge avec James Holden, figurez-vous. Il est né en 79, donc il a 38 ans. C'est le fondateur du label Border Community. Il s'est fait remarquer au début des années 2000.
Ça commence par une bio donc.
Rapidement, pour situer un petit peu, il s'était fait connaître par des remixes pour Depeche Mode, Madonna. Et puis en 2006, son premier album The Idiots Are Winning lui a valu vraiment une grosse reconnaissance en Allemagne, en Angleterre. Voilà, où on avait l'impression qu'il n'y avait pas eu beaucoup de gestes de techno intéressants qui étaient venus de l'Angleterre jusqu'ici. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a repéré. Il y a vraiment un très savant mélange de pop, de musique expérimentale et de techno minimal. Et puis, il s'est mis à jouer sur scène. Et c'est là que c'est devenu encore plus intéressant pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir en concert, parce que on a vu un musicien passer de petit maître de studio et des claviers et des machines à très bon chef d'orchestre et à passeur, organisateur. Et c'est quelque chose qui est manifestement à l'œuvre ici. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si l'album s'appelle pas juste James Holden, mais James Holden and the Animal Spirits. Donc il y a un esprit collaboratif, je pense, qui est important ici. Et on le voit bien, il y a deux musiciens qui ont une part très importante dans le disque. Il n'y a pas de parole, hein, c'est entièrement instrumental à l'image de ce qu'on vient d'entendre. Il y a le batteur Tom Page, que peut-être certains ont déjà entendu chez Néné Cherry ou Fortet, qui a un jeu voilà, un peu jazz, un rock psyché très léger, mais voilà, qui a un très très bon batteur. Et surtout, Cocorico, un Français, Étienne Jomet, qui ici, alors peut-être que certains connaissent Étienne Jomet pour son projet Zombie Zombie. Il vient de sortir un disque.
On en parle bientôt.
Excellent d'ailleurs, ben voilà, Liviti. Mais qui sur ce disque, là, il ne joue que du saxophone, et un saxophone particulièrement sauvage, je trouve très, très libéré, qui pourrait presque faire penser à du Colin Stetson. C'est quelque chose de très, très brut. Moi, c'est ce que j'ai plutôt aimé dans ce disque. On en discutait sans en disputer avant le début de l'émission sur la part un petit peu plus psychédélique ou électronique du disque. Là encore, moi j'ai bien aimé, je trouve que le mélange des deux opère très bien. Et encore une fois, comme Björk, on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais la nature, le rapport à la nature, c'est extrêmement important chez Björk. Et visiblement, c'est la même chose pour ce jeune homme, puisqu'il a choisi de mettre un arbre en couverture, un arbre majestueux. Et il nous précise que 3 ou 4 des titres ont été enregistrés un soir de pleine lune. Donc voilà, on sent le lien très, très cosmique. Et voilà, c'est une musique, je trouve, agréable, intéressante, passionnante à suivre au disque et en plus dont on attend qu'elle nous surprenne encore plus en concert.
Mathilde Serrel, à présent sur James Holden and the Animal Spirits.
Oui, car le garçon, il est pour une sorte d'équité hein, entre le monde humain et le monde animal. Il a déclaré dans une interview de James Holden, et effectivement, c'est un collectif parce qu'il l'assume. Il a quitté cette solitude dans laquelle il était depuis 20 ans avec ses machines, et il a monté un groupe et les lives qui ont avec, qui amènent aussi une expérience. Et surtout, il a fait un passage au Maroc où il a été formé auprès d'un maître gnawa qui s'appelle Mahmoud Guinia et qui l'a comme ça initié à la trance gnawa. Il a suivi des cérémonies, il a suivi ces communions-là. Et le projet du disque, c'est un peu la réunion des continents. Ça, vous savez que depuis qu'on parle de la crise des réfugiés, on est au courant. The world is freaking. Le monde se rétrécit. Donc, les cultures, elles sont amenées à se métisser, à s'entrelacer. Lui, il fait pari avec ce disque que c'est possible. C'est possible de prendre, par exemple, moi j'ai entendu du Soft Machine, hein, du Robert Wyatt, quand on pense au deuxième album, un titre justement un peu ambiance nature, hein, Hibou, Anemone and Beer. Moi, ça m'a fait penser à ça. On a entendu Sun Ra, on a entendu Thierry Riley, et je vous l'ai dit, de la musique gnawa, mais aussi des choses électroniques du 21e siècle. Un musicien mathématicien qui s'appelle Caribou, que j'aime beaucoup. Et je trouve que, voilà, il y a ce tissage-là et la réunion un peu des continents musique, Mathieu Conquet. Du nom de cette émission qui est la vôtre sur France Culture qui s'opère
tous les samedis à 19h.
Voilà, donc pour ça je trouve que c'est extrêmement
samedi
réussi
prochain, d'ailleurs, France Musicale de Rennes.
Quand on appelle son label Border Community, ça veut dire que c'est à ça aussi qu'on s'intéresse.
Parlez beaucoup anglais, Mathilde Serrel.
En revanche, je fais les traductions au passage, moi cette organique technologique, cette réunion des influences musicales, j'adhère et je me perds un petit peu moi dans les expériences de jazz fusion. J'ai plus d'affection pour 3 titres du disque disque Each Moment Like the First, The Beginning and the End of the World and the Never Ending. Alors on va traduire hein, chaque moment comme le premier, le début et la fin du monde et le qui ne finit jamais par exemple.
Le qui ne finit jamais.
La traduction, ce sont des nappes chaudes et électroniques et je trouve que là il est un petit peu dans sa majeure et je le trouve plus abouti, plus réussi sur des titres comme ça.
Alors, Hugo Cassavetti.
Non, je trouve la réflexion intéressante de dire, tiens, on commence par, en gros, une bio. Et je trouve que c'est peut-être toute la différence avec le Björk d'avant, parce que ce disque, effectivement, je veux dire, je le trouve intéressant, plus que juste que ça me provoque comme émotion. Et je trouve qu'on a besoin de tout le contexte. Moi, je connais moins, on le sait, je suis moins ces musiques-là. Je l'ai mis, effectivement, tous les noms que cite Mathilde, ça m'évoque ça. Donc, il n'y en a pas beaucoup à part Caribou qui sont d'après 74, quand même. J'ai même des disques, des lives de Tangerine Dream, il y a des choses très similaires.
Parce que c'est un animal.
Mais non, mais c'est toujours un peu curieux. Et donc, qu'est-ce qui m'a intéressé à lire un peu? Il y avait deux choses qui m'avaient rendu ce garçon très sympathique. C'était déjà il y a quelques années, c'était le premier à hurler quand il avait joué à Pantin à la Villette, en arrivant, en découvrant qu'il y avait les cornes de Red Bull, en disant « je refuse de jouer sous ces cornes », ce qui est le seul type dans le monde de l'électro, et en particulier en française, qui sont juste à plat ventre devant Red Bull. Ça, c'est une petite parenthèse qui m'horripile, personnellement. Et lui avait dit « je ne joue pas là-dessous ». Ce qui veut dire le type a quand même une certaine intégrité, ce qui déjà est un bon point pour lui. Ensuite, très intéressant pour revenir au discours, c'est de découvrir ce type qui vient effectivement de la trance, de la musique, tout ça, à un moment, s'est rebellé contre l'idée de faire cette musique qu'il trouvait extrêmement froide, calculée, programmée, et qu'il a eu besoin de faire une musique justement live. Cet album est enregistré live d'ailleurs. Et maintenant, d'ailleurs, il dit
la seule
chose que je regrette, c'est de l'avoir enregistré au début, alors que je devrais l'enregistrer maintenant qu'on commence à jouer ensemble, parce que ça évolue. Et ça, je trouve que ça m'intrigue. Mais voilà, je l'écoute donc avec toutes ces données-là. Parce que quand je le mets la première fois, j'entends une suite de morceaux, certains un peu planants, d'autres un peu, qui me laissent un peu indifférent. J'entends pas le tout aussi cohérent qu'on dit, et c'est peut-être le problème, parce que les modèles, quand on parle de krautrock et tout ça, ça a agacé certaines personnes, mais souvent, ils faisaient, c'était surtout l'époque du vinyle, on avait 20 ou 30 minutes un morceau, et ils laissaient développer le truc, soit on rentrait dedans, ou ils trouvaient quelque chose, ces espèces de trucs répétitifs qui partaient. Avec déjà, quand il faisait du live, il s'autorisait justement petit à petit à improviser et pour arriver à ce que lui revendique à temps le côté un peu ce qu'il appelle non pas que le jazz mais le spirituel jazz, où il mélange effectivement la trance marocaine, gnawa, avec cette idée, avec Jomé et tout, qui est d'improviser quoi. Mais tout ça un peu en douceur, en harmonie, ce qui fait que c'est toujours un peu particulier pour moi, parce que j'écoute ça, je me dis ça me déplaît pas du tout. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur Björk, c'est que il manque la chanson.
C'est pratique de prendre les arguments des autres.
Mais ça fonctionne ça fonctionne pas pour James Holden et ça marche chez Björk.
Oui, mais je disais en quelle année, parce que on a des oreilles plus âgées que les vôtres, Mathilde et Mathieu. Mais vous disiez Gary Numan pour l'ouverture du morceau, mais aussi du sous Phil Glass par moment, là c'est plus gênant, on va dire, ou du John Carpenter pour le côté ambiance. C'est vrai qu'on entend bien ça comme une musique de film. Enfin, ça pourrait être un film actuel qui voudrait avoir une musique qui sonne un peu ancienne, sur le mode de l'épouvantable Driver. Comment ça s'appelait déjà ? Drive.
Avec le Night Call de Kavinsky.
C'était un peu ce genre d'ambiance.
Musique, pardon, dont on peut dire c'est on dirait la BO d'un film imaginaire.
C'est mauvais signe.
C'est un sauf pour Björk.
Et c'est un peu. Björk, les images, on les a pas encore. Mais
si.
Non, mais montrez pas cette pochette hideuse.
La poupée du diable.
Montrez pas cette pochette hideuse. Alors. Ce qui est bien, c'est qu'on entend effectivement toutes ces influences, tous ces désirs d'autres musiques. Moi, il y a des morceaux vraiment que je peux absolument pas écouter parce qu'ils me font saigner les oreilles. Mais c'est un disque dont je suis à peu près persuadé que je vais pas le réécouter. C'est aussi une chose dont on parle régulièrement. Et si on écoute des disques, on prépare cette émission fort sérieusement. Qu'est-ce qu'on va écouter après la diffusion de l'émission? Vous le réécouterez, vous croyez, Mathieu Conquet, ce disque?
Soyez
honnête, hein.
Oui, très probablement, mais surtout ça me donne envie. Je trouve que ce disque, c'est juste la promesse de quelque chose qu'on va aller écouter en concert. Moi, ça m'invite seulement à aller voir en concert.
Comme ça.
C'est vraiment comme ça que je le reçois. Maintenant, vous posez la question qui est fondamentale, c'est de savoir est-ce qu'il y a besoin d'explications pour que ça nous plaise. Vincent Biulès, vous connaissez peut-être Arnaud Laporte, c'est un peintre qui vit à Montpellier, qui était l'inventeur de Support Surface, qui maintenant fait de la figuration, vraiment, il fait des paysages. Il disait que le critère absolu pour un tableau, c'est quand vous vous le voyez, est-ce que vous avez envie de l'avoir chez vous? Mmh. Il ne devrait pas y avoir de filtre et d'explication. Est-ce que c'est suffisamment intelligent?
Oui,
tout.
Bien sûr.
C'est juste, est-ce que, voilà, est-ce que ça vous plaît? Une ou est-ce que c'est
émotionnel.
Voilà, ce qui n'interdit pas que quelque chose qui vous est touché pour des raisons simples puisse aussi susciter des questions profondes pour la suite. Mais je trouve que ça pose la question fondamentale de la musique comme illustration, comme décor. Et aujourd'hui, on vit beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'elle est là dans le supermarché, dans les iPods de tout le monde.
Dans les restaurants, au secours.
Voilà. Et de la nécessité de la musique et de son côté décoratif. Est-ce qu'on aimerait avoir cette musique chez soi? Moi, déjà, elle ne me dérangera pas chez moi. Et en plus, elle me donne envie d'aller la vivre et de la partager avec d'autres. Donc, voilà, mission réussie pour moi.
Un tweet d'une auditrice presque anonyme, Boris Pinault.
Oui, sur Twitter, Pascaline Bonnet. Oh. Salut le choix de morceau diffusé tout à l'heure pour découvrir l'album de James Holden. Une mise en bouche envoûtante.
Bon, Pascaline Bonnet qui concourt notamment à la fabrication... d'une émission qui passe le samedi à 19h, hein, je crois, qui s'appelle Continent Musique, mais aussi Plan Large, 15h, Antoine Guy. Enfin, c'est la fille du samedi, mais qui était auparavant aussi à la dispute. Vous voulez dire un dernier mot, Mathilde Serrel, ou on peut passer à la suite?
Peut-être un dernier mot juste sur l'usage de la musique, sur cette question décorative ou pas décorative, d'amener chez soi ou pas d'amener chez soi. Moi, je crois assez au multi-usage. Enfin, c'est un petit peu comme avec le cinéma, j'ai pas très envie de catégoriser dont je l'emporterai chez moi et je le reverrai.
Non, est-ce que vous le réécouterez
ou pas, ou je le réécouterai ou pas, j'arrive à me dire que je peux aimer une musique dans l'instant, ne pas forcément y revenir. Et est-ce que c'est mauvais signe? Est-ce qu'à un moment, elle n'a pas rempli exactement cette fonction qui était de m'accompagner?
Pourquoi pas.
À cet instant, je pense qu'on peut moduler comme ça un petit peu ces expériences de la musique et pas tout vouloir nécessairement graver dans le marbre ou de manière pérenne.
C'était pas ma question, mais c'est une très belle réflexion qui vient clore ce débat sur The Animal Spirits. C'est le titre de l'album de James Holden and The Animal Spirits qui est sorti chez Border Community.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le troisième sujet de cette dispute musicale ce soir, c'est une bande dessinée. Avec la poursuite d'un projet dont nous avions parlé ici même il y a un an, Hip Hop Family Tree, Dead Peace Corps, publié en France chez Papaguédé. On en parle à nouveau à l'occasion de la sortie du volume 3 qui porte sur les années 1983 et 1984 avec l'arrivée d'une nouvelle génération de rappeurs qui entend bien arracher le flambeau des mains des pionniers. On va écouter un de mes chouchous de l'époque, LL Cool J. D'abord parce qu'il est très très long, comme pas mal de morceaux de cette époque-là, mais surtout parce qu'on parle d'un livre et non pas d'un disque, on parle d'un projet fou. Vous faites la bio d'Ed Peace Corps pour commencer ou pas? Parce qu'il vous avait planté à ping-pong l'an dernier. Il n'était pas venu le jeune homme. Hein.
Mais oui, mais il y avait une grève.
Vous avez
aussi
votre préparation de l'époque?
Tout
ou pas?
À fait, ben je l'ai ressorti.
Alors le chapeau.
Parce que vous savez, une préparation.
En exclusivité dans la dispute.
Il faut aussi qu'elle soit pérenne. Et je me suis dit en la relisant que j'avais envie de la reprendre.
J'étais
alors,
sûr.
Tous les signaux étaient ouverts.
Le réemploi.
Pour vous ressortir.
Le réemploi.
Ed Peace Corps. Non, mais Ed Peace Corps, effectivement, il a été formé par Harvey Picard.
La bandelle.
Le réemploi, toujours. Mais dans la même chaîne. C'est voilà. Plus classe.
Effectivement, c'est du recyclage, oui. Des économies au sein du service public.
Absolument.
Saviez-vous. Alors, il se trouve qu'effectivement, il a été formé par un des pontes de la BD underground américaine qui s'appelle Harvey Picard. Et c'est un garçon qui est né en 1982. Donc, il nous raconte une époque qu'il n'a absolument pas vécue. On parle de là avec Ed Piscor. Le premier tome, il y a 4 tomes qui sont sortis aux États-Unis en France. Donc, on en est au 3e.
On reste en France, si vous voulez bien.
Voilà, juste pour vous dire qu'il y a de toute façon un 4e qui va nous parvenir. Le volume 1, c'était les pionniers des années 70 à 1981. Volume 2, 81-83. Et donc, ce nouveau volume, 83-84. Donc, vous voyez que sur la bande chronologique, on se resserre et on en reparlera. C'est peut-être aussi un petit peu le défaut de ce 3e volume. Il est tellement resserré dans l'espace chronologique que finalement, dans l'amplitude des découvertes de l'enquête d'Ed Piscor, on est un petit peu moins bien servi que dans les volumes précédents. En tout cas, ce qu'on retrouve, par exemple, avec ce disque LL Cool J qu'on a entendu, c'est vraiment tout ce qui est agréable dans la BD d'Ed Piscor, qui est un garçon qui est formé par les comics américains, qui a été nourri par un Superman contre Muhammad Ali, qui est vraiment dans un trait absolument saisissant. De toute façon, au-delà de l'histoire du pop qui est racontée, c'est déjà un objet artistique, hip-hop family tree, qui est excellent. Et donc, LL Cool J qu'on entend, c'est un garçon qui va frapper à la porte de Rick Rubin, qui est donc producteur à la base. Il est à l'université de New York, il reçoit les gens dans sa chambre de campus. Et ce type qui frappe, il dit « Ouais, j'ai écrit des trucs sur un cahier. Et puis tiens, regarde, je suis venu avec mon copain. Comme par hasard, ce sera un futur Beastie Boys. » Et c'est ça vraiment, c'est ces légendes d'en dessous, ces récits mineurs qu'on découvre toujours avec Ed Piscor. Rick Rubin va vouloir défendre absolument ce titre et il va s'appuyer donc avec Russell Simmons, producteur de hip-hop reconnu, pour sortir ce titre qui sera le premier gros succès dans la belle dont on va beaucoup entendre parler ensuite, qui s'appelle Def Jam. Mmh. Et ça, c'est tout ce qu'on aime chez Ed Piscor, les récits mineurs et la résonance avec la grande histoire qui nous est parvenue ensuite. Donc pour ça, je trouve que c'est un volume qui tient ses promesses, mais qui, en même temps, va se perdre un petit peu, à mon avis, dans le détail.
Alors, gardez vos réserves, oui, peut-être,
pour le
deuxième tour.
Pour le deuxième tour, mais on y reviendra.
Après cette magnifique introduction.
Voilà, il y a du mythe, il y a du culte, mais peut-être trop.
Ah, parce que faut quand même dire, pour celles et ceux qui n'ont jamais eu en main des volumes de ce hip-hop family history, que c'est un grand, grand malade, Ed Piscor, parce qu'il y a des tonnes d'informations dans chaque case.
Plus de 80 personnages.
C'est vraiment une mine absolue. Alors, peut-être que le hip-hop n'est pas votre musique de prédilection, mais vous la connaissez bien. C'est un projet qui est quand même assez incroyable, non ?
Oui, je trouve. D'abord, c'est une fois de plus, le bouc qui est un grand format, mais surtout ce qui est très beau, c'est ce papier un peu jauni, parce qu'il reproduit, il a utilisé, je ne sais plus, c'est les 67 gammes de couleurs des comics traditionnels. Mais ce qui fait que c'est très très beau, au-delà du trait. Et ce que je trouve, moi, assez remarquable, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas si vous le recevez, mais il sort, ça n'existait pas il y a 10 ans, et maintenant il y a une production, je ne dirais pas littéraire, c'est faire trop d'honneur, mais sur la musique, on reçoit au moins 8000 bouquins par jour, dont les trois quarts sont assez illisibles et rébarbatifs. Et là, ce que je trouve très fort, avec un sujet aussi dense, où il y a juste une suite, ça pourrait être extrêmement ennuyeux, juste une suite de noms, de faits, et c'est totalement passionnant. Et sur le côté que là, comme c'est resserré sur le temps, je ne suis pas d'accord, parce qu'on pourrait l'appliquer, là c'est le hip-hop, et on a eu la préhistoire, effectivement, on a eu la deuxième phase, qui était les pionniers qui ont commencé à marcher, et là on a ce qui est, et en gros ce qui est encore, on est encore en vie dans l'héritage de ce qui est en train de se mettre en place. C'est à travers Def Jam, ça va être Public Enemy, c'est Chuck D, tous ces gens-là. Donc pour certains, ils l'ont vécu en direct, d'autres on redécouvre d'où viennent Run DMC et tous ces gens-là. Donc moi je trouve pas ça, et je trouve, j'adore qu'il mélange les quelques gros noms qui vont arriver, qui sont capitaux, tous les mineurs aussi, et c'est assez incroyable, parce que chaque fois, c'est en un ou deux dessins. Alors, l'idéal, ce qu'on dit toujours, moi j'ai une fille qui l'a lu, elle le met tout de suite, la liste, playlist. On écoute tous les morceaux, mais à la limite, même sans les écouter,
parce qu'il y a une playlist,
on se met à les entendre et tout, soit par des souvenirs,
dans le livre, hein.
Email, alors ce qui est très fort, c'est... je trouve que voilà, ce bouquin est comme justement, alors voilà, on dit est-ce que c'est pas mon truc de hip-hop, mais voilà, j'ai un certain âge, donc moi j'étais contemporain de tout ça, je les ai vus la plupart, de LL Cool J et tous ces gens-là, et que le livre, s'écoute comme on écoutait ses disques, quoi. Ou se lit plutôt, pardon, comme on écoute ses disques. C'est-à-dire qu'il y a du rythme, c'est nerveux, c'est très excitant, ça part dans tous les sens. Et je trouve que c'est très, très bien mis en scène de ce point de vue-là. C'est-à-dire que moi, je suis pas très comics, qui, au bout d'un moment, de voir juste des types qui se foutent des baffes et qui s'engueulent et que ça hurle et des plofs et des trucs comme ça.
Bon,
là, on l'a, mais appliqué à la musique. C'est, ouais. Et c'est, il y a le rythme du hip-hop avec tous ces personnages qui sont assez pittoresques de, et on a lu, il y a eu des bons livres, et je sais pas, puisque tout le monde en a, il y a eu un assez bon livre, et même un très bon livre fait par mon collègue Laurent Rigoulet, qui racontait tout le début en, de façon un peu romanesque, mais qui racontait tout la préhistoire de couleurs que jusqu'à justement l'explosion de Sugar Hill. Là, ça prend, c'est la suite. Mais ce que je trouve vraiment, c'est marrant parce qu'on pourrait dire c'est juste intéressant pour soit des gamins ou des gens qui ont vécu ça et on le lit. Moi, c'est une des BD et c'est une des rares. Moi, j'ai été très BD avant. J'ai beaucoup de mal à lire des BD aujourd'hui et celle-là, je suis totalement captivé et on a du mal à le reposer. Et voilà, ça me captive 100 fois plus que Vernon Subutex, quoi.
Bon, ça c'était le petit tacle au passage.
Donc, Charles Gainsbourg et Virginie Despentes.
Ah ben, il faut, non mais c'est les références en ce moment, donc on peut...
Bon.
Un mauvais point.
Mathieu Conquet, sur Hip Hop Family Tree.
Que je suis avec plaisir depuis que le tome a été traduit, plutôt bien traduit d'ailleurs. Je trouve qu'il y a pas, parfois on peut regretter l'éditeur Alia par exemple fait souvent des traductions de très bons livres anglais et parfois les traductions ont pu être critiquées.
Honte à moi, j'ai pas dit le nom du traducteur.
Papa Guédé, vous l'avez mentionné.
Non, le traducteur.
Ah, je ne l'ai pas donné non plus.
Bon, mais non, mais on va chercher ça parce que je le donne toujours, il n'y a pas de raison.
Non, c'est plutôt bien.
Évidemment.
En effet, le principe de base, c'est-à-dire qui est esthétiquement reprendre les codes du comics et précisément ceux de Marvel, hein, de Jack Kirby, celui qui avait dessiné Captain America, l'incroyable Hulk, sauf que là, les quatre fantastiques, bah, ça devient, par exemple, le Grandmaster Flash et Furious Five, dont on apprend comment ils ont été relookés par Deborah Jones au moment où ils vont arriver chez Sugar Hill Records. Et il y a énormément de petites anecdotes qui finissent par raconter la grande histoire. Puisqu'il s'agit de BD, moi, j'aimerais bien qu'on prenne une planche. Celle-ci m'avait particulièrement marqué. C'est vers la fin, c'est page 87.
Avec juste une interruption, parce que Hugo Cassavetes charge dans le livre depuis tout à l'heure.
Ce qui est drôle, c'est que c'est pas marqué.
Et qu'on a du mal à le trouver, donc mais Boris Pinot a trouvé sur Internet.
La traduction est signée Emmanuel Paul.
Voilà, Emmanuel Paul, donc on rend grâce à cette traduction. La planche, Mathieu Conquet.
Par exemple, page 87, il y a une opposition. En fait, ce qui est assez réussi dans le geste d'Ed Piskor, c'est qu'il parle du hip-hop, et donc il parle de la danse, il parle du graffiti, il parle
c'est
aussi...
C'est le hip-hop, hein, c'est pas le rap.
Il parle...
Le
mouvement culturel qui va naître. Par exemple, on apprend dans ce numéro-là l'idée de génie de la femme de Curtis Blow qui lui dit mais tu sais les noirs le sport qu'ils aiment le plus c'est le basket, le rap c'est en train d'être la musique la plus populaire chez les noirs, tu devrais faire un morceau sur le basket. Quand on sait aujourd'hui les liens entre la NBA et le hip-hop, on se dit que voilà, il y a quelque chose d'assez génial qui commence à se tisser à cette époque-là, mais de façon peut-être plus naïve et moins calculée. Et il évoque aussi quelque chose, deux films qui ont été très importants qui sont liés au travail de deux photographes, donc Wild Styles et Star Wars, ces deux films qui d'ailleurs sont sortis en 82-84, qui racontent vraiment cette genèse, cette guerre du graffiti à New York et la genèse du hip-hop. Et donc il compare sur cette même planche Henri Chalfant, un des photographes qui lui préfère cadrer très serré les graffitis, et donc il représente les cadrages d'Henri Chalfant pour montrer un métro où on ne voit que le graffiti. Voilà, c'est son parti pris à lui, le graffiti est le seul message, et il l'oppose à Martha Cooper, qui a droit à une plus grande planche. Au contraire, elle intègre toujours l'environnement des artistes, sans ses clichés sans doute, parce qu'elle a derrière elle des années d'expérience en tant que photo-reporter. Donc là, on voit un jeune graffeur évoluer au milieu des trains, et on a le tableau d'ensemble. Moi, je trouve qu'on a vraiment le tableau dans... Enfin, si on l'avait beaucoup dans le tome 1, on l'a un petit peu moins ici, et on bascule un peu plus dans la petite anecdote. Le racisme, la violence, les problèmes de drogue, la difficulté à se faire accepter dans un milieu qui est maîtrisé, tenu par des Blancs, c'est quelque chose qu'on sentait plus à l'œuvre dans le premier tome, et peut-être un peu moins fort ici. Mais enfin, le geste a été fait. Il y avait un livre qui, je trouve, la comparaison la plus fiable, c'est peut-être Please Kill Me. Vous savez, c'était un livre polyphonique qui racontait tout le punk, le mouvement punk aux États-Unis, évidemment, d'abord, avant d'aller en Angleterre, mais raconté par tous les acteurs. Et en fait, Ed Piskor, il s'est documenté en lisant des milliards d'interviews comme un fanatique. Et en croisant les points de vue, il finit par avoir une hypothèse de la façon dont les anecdotes se sont déroulées. Et des, voilà, c'est une synthèse d'hypothèses qui est plutôt intéressante. Mais voilà, si je trouve que ce qui réussit manifestement à célébrer quand même, c'est les paroles, l'envie de la musique et l'envie d'aller réécouter toute la bande-son qui est mentionnée ici.
Dernier mot encore, Mathilde Serrel.
Alors, en effet, on n'a pas parlé de Graffiti Rock aussi, qui est une émission de Michael Holman qui sera à la base dans le groupe Grey avec Jean-Michel Basquiat, parce que le film fantôme de tout ça, c'est Downtown 81, qui est toute cette scène new-yorkaise qui fait le lien entre le hip-hop, les arts, le street art, le punk, dans ce New York bouillonnant du début des années 80. Mais je trouve que l'analyse de ce qu'il a pensé de ses œuvres m'intéresse moins que lorsqu'il est dans les récits émergents, ces histoires incroyables comme celle de KRS-One, par exemple. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Hip Hop Family Tree, la qualité narrative, c'est que c'est vraiment une série. Tout est construit comme une série et chaque plan nous laisse un petit peu en cliffhanger, accroché à la falaise sur le personnage suivant. Et en l'occurrence, ce tome 3, il se termine sur KRS-One, qui est un peu l'intello du rap, celui qui va amener le rap conscient. Et on ne sait pas encore donc comment il va s'en sortir, comment il va s'imposer. On s'arrête à la dernière planche avec cette envie de lire la suite qui est liée vraiment donc à l'écriture série.
Et on s'arrête là-dessus pour Hip Hop Family Trome 3. Ed Piskor.
Hip Hop Family 3.
Aux éditions Papa Guédé. Il vient entrer dans le studio, donc je pourrais lui faire dire bonsoir. Bonsoir Grégoire Diffioret.
Bonsoir Arnaud.
Vous aimez comme ça. C'est l'heure du jeu de la dispute et Grégoire, chaque soir, nous rappelle la question de la veille et nous donne enfin sa réponse.
À quel art divinatoire Alejandro Jodorowsky a consacré un livre? Et la réponse était au tarot.
Ce soir, nous avons gagné des DVD du film d'animation La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, qui avait reçu le prix France Culture Cinéma des étudiants en 2017. DVD distribué par Shellac. Quelle est la question?
Pour quelle série française le réalisateur a créé une séquence animée?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou vous abonner bien sûr au podcast de l'émission. Demain à 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques. Je serai en compagnie de Corinne Rondeau, Anaëlle Pijat et Jean-Christophe Briançon. À notre affiche, Dada Africa, source et influence extra-occidentale. Exposition à découvrir au musée de l'Orangerie. Nous parlerons aussi de la très belle exposition d'Hiroshi Sugimoto sur Fast Tension à la galerie Marianne Goodman. Et un livre, là aussi, au programme Les Mémoires de Marina Abramovic, qui s'intitule Traverser les murs, publié chez Fayard.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Seule la Terre, un film de Francis Lee, Hitchcock d'or, meilleur film britannique au Festival de Dinard. Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdu dans le brouillard du Yorkshire.
I could have managed, I've done so far.
Yeah, of course you have.
Lorsque Jorge, un saisonnier, arrive à la ferme pour l'aider, Johnny doit faire face à des sentiments jusqu'alors inconnus.
Just so you're clear, he's here to work.
Une relation intense naît entre les deux hommes qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.
What do you want?
Seule la Terre, au cinéma le 6 décembre. Un film France Culture.
Et votre soirée sur France Culture à 21h, c'est le comédien Vincent Dedienne qui sera l'invité de Marie Richeux dans Par les temps qui courent. Avant cela, la photographe Lola Rebou sera elle l'invitée d'Aude Lavigne dans Les carnets de la création à 20h55. 20h30, fiction de France Culture, 7e épisode de La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Et tout de suite, à voix nue.